Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis, mais l'émission que vous allez écouter maintenant ne va pas être tout à fait celle que vous avez l'habitude d'écouter, puisqu'au lieu de nous intéresser à 7 jours d'actualité, nous allons nous pencher sur 365 jours d'événements. Cette semaine et la semaine prochaine, c'est une tradition, vous le savez.
Pierre-Édouard Deldic.
Une année d'actualité donc, avec notre invité Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission, comme les autres d'ailleurs, sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Vous retrouver, c'est une tradition aussi à cette époque
oui,
de l'année.
Ça devient une tradition depuis quelques années maintenant.
Depuis quelques années, depuis longues années maintenant.
On va pas compter, ça va nous vieillir.
Alors, on a l'habitude de revenir chaque semaine dans cette émission sur l'essentiel de l'actualité. Là, on va brasser une année 2018. 6 mois cette semaine, 6 mois la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année, Yann?
Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Il y a des
bon nombre d'événements.
Il y a beaucoup de choses tragiques qui m'ont marqué, notamment le conflit au Yémen. Mais un événement qui m'a marqué plus politique, c'est la situation politique italienne. En Italie a été élu un gouvernement. Enfin, il y a eu des élections au printemps et en est sorti un gouvernement qui est une alliance étrange entre un parti d'extrême droite et un parti qui s'appelle les 5 étoiles, les 5 Stelle, qui était un parti qui semblait être plutôt, je vais dire, sociologiquement de gauche, en tout cas avec un électorat qui venait plutôt de là. Or, cette alliance a mis en œuvre une politique xénophobe, vraiment xénophobe, vis-à-vis des migrants, notamment des migrants africains qui viennent nombreux, on le sait, par la Libye, à travers la Méditerranée, enfin ceux qui survivent. Et cette politique xénophobe a été approuvée par ce mouvement, les 5 étoiles, qui me semblait être un mouvement avec une sociologie d'électorat plutôt de gauche. Et je suis très inquiet de ça, parce que ça veut dire qu'il y a une partie de l'opinion publique européenne de gauche qui est prête à soutenir des mesures xénophobes, notamment contre les migrants. Et ça, je trouve, c'est très inquiétant. Si ça se développe dans d'autres pays que l'Italie, qui a une situation spécifique, on sait que l'Italie a accueilli beaucoup de migrants simplement parce qu'elle est à la frontière de l'Union européenne. Mais même comme ça, je suis très inquiet de voir que personne dans les 5 Stelle n'a contesté vraiment ces mesures xénophobes.
Alors nous allons parcourir les événements de l'année. Enfin l'essentiel, ce seront quelques images comme d'habitude de l'actualité de cette année 2018. Je voudrais déjà saluer quelques auditeurs qui nous ont écrit pour ces émissions. Je vais saluer pour commencer Mohamed Haïdara qui est directeur général du Marathon International de Nouadhibou en Mauritanie. Vous qui faites du sport, Yann, ça doit vous parler.
Pas vraiment. Alors, un marathon en Mauritanie, vu la température en Mauritanie, je m'en garde bien.
En tout cas, je salue Mohamed Haïdara. Je voudrais saluer aussi Ahmed Moussa Bella, qui lui est à Conakry et qui salue et remercie toute l'équipe de RFI, notamment tout le travail des correspondants. Je pense qu'on peut s'associer à ces remerciements.
Je suis un grand fan des correspondants de RFI.
Qui, chaque jour, quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent, nourrissent nos rendez-vous d'informations. Alors Yann, commençons à feuilleter l'album de l'année avec ces images fortes et la suite de la guerre en Syrie, reconquête progressive du régime aidé par les Russes et les Iraniens. De leur côté, les Turcs ont une obsession contre les Kurdes et ils ont pris Afrin le 23 mars à Istanbul, Alexandre Biyet.
Les forces turques s'installent à Afrin, les opérations de déminage se poursuivent, des blindés turcs sont toujours positionnés au carrefour du centre-ville. Et fort de cette victoire, le président turc le confirme, l'objectif de l'armée turque est de poursuivre vers l'est, tout au long de sa frontière jusqu'à l'Irak, voire en Irak, comme l'a annoncé Recep Tayyip Erdogan.
Si vous nous demandez maintenant, la mission est-elle terminée? Non, bien sûr. Nous avons posé une virgule, nous devons maintenant mettre le point final. Nous allons poursuivre ce processus jusqu'à la destruction finale de ce corridor de la terreur. Jusqu'au nord de l'Irak, nous allons prendre le contrôle des camps terroristes si nécessaire. Si le gouvernement irakien peut s'en occuper, tant mieux. Sinon, nous irons jusqu'à la ville de Sinjar pour éliminer le PKK.
Reste à voir comment l'armée turque entend avancer puisque la prochaine étape est logiquement la ville de Manbij, contrôlée par les forces kurdes qui sont cependant appuyées par des militaires américains.
Alors ça, c'est Alexandre Billette, le 23 mars dernier. La Syrie a continué à occuper la une de l'actualité, Yann, avec la Ghouta orientale reconquise en avril. En avril aussi, les frappes militaires des États-Unis et de la France, après une attaque chimique à Douma. C'est quasiment la fin de la guerre, qui a fait, il faut le rappeler, quelques 360 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Et là, on touche à l'actualité de la fin de l'année. Il y a aussi ce désengagement américain annoncé en décembre par Donald Trump.
Oui,
il y a encore une actualité syrienne, c'est très fort.
Je dirais qu'il y a deux actualités syriennes. Il y a la province d'Idlib qui est encore contrôlée en partie par l'opposition au régime et notamment par des partis de mouvements djihadistes. Donc là, il y a encore une offensive en suspens du régime et de ses alliés russes et iraniens. Et puis il y a la partie kurde qui est plutôt nord-est. Et là, effectivement, le désengagement américain va probablement donner à Recep Tayyip Erdogan toute la latitude qu'il veut. La question, c'est si les troupes kurdes, effectivement, pénètrent encore davantage, puisqu'elles sont déjà présentes sur le terrain, pénètrent encore davantage dans le nord de la Syrie. Est-ce qu'à un moment ou un autre, le régime syrien va s'y opposer? Comment va être fixée la ligne rouge et comment vont réagir les mouvements kurdes? À partir du moment où ils sont abandonnés par les États-Unis, les mouvements kurdes n'ont pas beaucoup de répit que de tenter peut-être une alliance avec le régime. Je rappelle quand même que les mouvements kurdes sont dans une espèce d'alliance tacite avec le régime. Au début de la guerre en 2011-2012, le régime a fait un deal avec les Kurdes et il leur a dit « si vous ne rejoignez pas l'opposition, on vous laisse vous autogouverner globalement ». C'est cette alliance qui prend fin. Est-ce qu'elle va se renouer d'une certaine façon parce que les Kurdes sont isolés, maintenant les Américains les ont laissés? On ne sait pas, on va voir.
On a quelque peu l'impression que les Kurdes vont une nouvelle fois être abandonnés, non?
Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire les Kurdes, il faudrait dire certains partis kurdes. Et en l'occurrence, il s'agit de la branche syrienne, on va dire, du PKK. Le PKK, c'est le parti kurde dominant en Turquie, qui a une filiale, un frère, une sœur, comme on voudra, en Syrie, qui s'appelle le PYD. Ce sont ces partis qui sont abandonnés. En revanche, si on va du côté irakien, les Kurdes irakiens n'ont pas vraiment été abandonnés par les Américains. Ils ont encore une relation de travail, si je puis dire, mais ils ont aussi perdu des choses. La difficulté pour les Kurdes depuis toujours, c'est qu'ils n'ont pas réussi à s'unir entre différents partis qui sont dans différents pays. Les Kurdes irakiens d'un côté, les Syriens, les Iraniens, tous ces gens-là sont désunis. Donc les États s'en servent, ils jouent les uns contre les autres.
Une année d'actualité. Alors le 18 mars, nous continuons notre voyage dans le temps. Yann Mince, réélection sans surprise aucune de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Correspondance alors à Moscou de Daniel Valo.
Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine s'avance sur la scène avec un large sourire. Le président russe s'adresse à ses partisans rassemblés devant lui.
Cette victoire, c'est la reconnaissance du travail accompli. Nous allons continuer à travailler tous ensemble, de manière tout aussi responsable et efficace.
Dans la foule, Ludmila se protège du froid dans son manteau de fourrure. Venue avec deux amis, elle se dit ravie de l'élection de son président.
Je suis très heureuse. Vladimir Poutine a tout donné à la Russie. D'abord, il nous a rendu la Crimée. Ensuite, il nous a rendu plus forts. C'est un vrai leader. Il a des convictions et c'est un homme, un vrai.
Non loin de là, un homme plus jeune s'interroge, lui, sur le nouveau mandat de Vladimir Poutine. Alexander espère que le président russe engagera les réformes qu'il estime nécessaires pour la Russie.
Il faut réformer l'économie. Nous dépendons beaucoup trop du gaz et du pétrole. Il faut que les entreprises puissent se développer. Je pense que c'est très important.
Vladimir Poutine quitte la scène. Son discours n'aura duré que quelques minutes. Et comme à son habitude, il n'aura donné aucune indication sur la politique qu'il entend mener pour les 6 prochaines années.
Alors Yann, dans la rubrique réélection, il faut signaler aussi celle de Nicolas Maduro au Venezuela. C'était le 20 mai dernier. Reportage cette fois de Julien Gonzalez.
Devant le balcon du peuple, des centaines de personnes sont venues pour soutenir le président et candidat Nicolas Maduro. Certaines portent des t-shirts de la constituante, d'autres des casquettes aux couleurs du Venezuela. Parmi elles, Romaira Flores. Elle a explosé de joie à l'annonce des résultats donnés par le Conseil national électoral.
Je suis très heureuse et très émue. Le vote dur chaviste est sorti dans la rue pour lutter et voter. Et ce, en dépit des appels à l'abstention et de toutes les difficultés mises sur notre chemin. L'opposition a saboté les transports, mais nous avons réussi à aller voter. Je suis là pour dire à Nicolas Maduro qu'il y a un peuple qui le soutient et nous allons continuer à défendre la révolution.
Un enthousiasme partagé par Xiomara Toro, vêtue d'un t-shirt portant l'inscription « Chavez, je te le jure, j'ai voté Nicolas Maduro ». Elle a donné ce dimanche un vote de confiance à l'actuel chef de l'État afin, précise-t-elle, qu'il poursuive ses efforts.
La situation économique est très dure, mais nous sommes bien conscients que cela ne peut pas se régler en un jour. Les prix exorbitants, c'est très difficile à supporter parce que nous faisons face à une guerre menée en interne et depuis l'étranger. Donc nous avons besoin de fermeté. Ce peuple a demandé de la fermeté ce dimanche à notre président pour avancer face à cette situation.
Et parmi ses propositions, le président réélu a notamment assuré qu'il convoquera une nouvelle journée de dialogue national.
Et pour clore en quelque sorte cette rubrique réélection, il faut noter celle de Fatah al-Sissi en Égypte au premier tour. Que des réélections sans grande surprise, c'est ce qu'on peut se dire.
Oui, certainement. En tout cas, dans le cas de Poutine, il n'y avait pas beaucoup de doutes. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre le moment où Poutine a été effectivement réélu et maintenant, il s'est passé un événement que, visiblement, dont Poutine n'avait pas perçu la portée, qui est la réforme des retraites. Ils ont lancé une réforme des retraites. Enfin, le gouvernement russe a lancé une réforme de retraite qui s'est révélée extrêmement impopulaire, y compris dans l'électorat de Poutine, qui compte de nombreux électeurs âgés. Il y a des manifestations assez importantes, au point que le gouvernement a en partie reculé. Et depuis, la popularité de Poutine a quand même beaucoup baissé, en dépit de cette réélection triomphale. Côté Venezuela, côté Maduro, c'est accablant de voir à quel point ce régime se dédémocratise. Son prédécesseur Chavez n'était pas un grand démocrate, mais en tout cas, il laissait fonctionner le système électoral et il a été réélu globalement sans beaucoup de contestation. Là, maintenant, c'est terminé, la démocratie au Venezuela. L'Assemblée a été marginalisée, une assemblée constituante a été fabriquée par le régime pour la contrer, etc. Ouais. On est vraiment dans la fin d'un régime démocratique, très soutenu, il faut le dire, par la Chine et la Russie.
Alors, il y a une très belle photo dans le supplément d'Alternatives économiques, le hors-série que vous avez piloté, Yann Mince, intitulé « Quel monde en 2019 ?» Une très belle photo sur une double page. Sur un mur rouge, on voit Nicaragua libre, je le traduis en français, oui, avec un cycliste, le profil d'un cycliste qui passe, parce que le Nicaragua, lui aussi, et ça continue ces jours-ci, tremble, est en état de contestation.
C'est fascinant, moi je suis allé au Nicaragua il y a très longtemps, en 86, et à l'époque c'était encore l'enthousiasme révolutionnaire du sandinisme, la fin de la dictature de Somoza, etc. Et le chef, le patron du nouveau régime s'appelait Daniel Ortega, et à l'époque c'était vraiment un jeune révolutionnaire, etc. Bon. Aujourd'hui c'est devenu, il a été chassé du pouvoir par les urnes, il est revenu au pouvoir par les urnes, et aujourd'hui c'est devenu un dictateur latino-américain classique, une caricature qui ressemble beaucoup
à celui
qu'il avait renversé il y a une quarantaine d'années. C'est accablant de voir qu'aujourd'hui c'est lui qui a des milices qui fait tirer sur la foule, etc. On est vraiment dans la reproduction par un pseudo-révolutionnaire qui depuis est devenu chrétien évangélique, qui a nommé sa femme vice-présidente. Enfin, on est vraiment dans une caricature et c'est accablant de voir ça.
On aurait pu parler, on va le faire d'ailleurs en quelques secondes, si vous le voulez bien, Yann, de l'affaire Skripal, qui est quand même une affaire qui a marqué l'actualité. Hein. Le 4 mars dernier, un agent double et sa fille sont empoisonnés à Salisbury, au sud de l'Angleterre. Et on sait maintenant que c'était deux agents du GRU, c'est-à-dire du service de renseignement militaire, qui étaient à l'origine de cela.
Oui, et qui, visiblement, ils sont moins doués que leurs camarades du KGB, enfin du FSB maintenant. Puis ils ont quand même laissé beaucoup de traces derrière eux. Et que j'ai cru comprendre, je ne parle pas le russe malheureusement, mais ils ont été interviewés à la télé. Ils sont censés toujours être de pacifiques touristes. Il semble que l'interview était grosse. Et que même les Russes se sont rendus compte qu'effectivement, cet type racontait n'importe quoi.
En tout cas, ça crée une tension sérieuse entre la Grande-Bretagne et la Russie.
Bien entendu, c'est pas souvent qu'on vient assassiner quelqu'un sur le territoire d'un État étranger, surtout de la Grande-Bretagne qui a des traditions d'État de droit, etc. En tout cas, elle essaye de défendre. Bon, en même temps, je crois pas que globalement, aucun pays occidental ne va se fâcher durablement avec la Russie juste pour ça, j'allais dire.
Une année dans le monde.
Et nous allons partir, Ryan, pour l'Asie avec le rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, un fait marquant de cette année. En avril, notamment, première rencontre entre les dirigeants des deux pays de la péninsule, à la grande satisfaction de ces Coréens interrogés à Séoul par Frédéric Ojardias.
Sur la place Gangwamun, dans le centre de Séoul, de nombreux partisans de la réunification se sont rassemblés. Parmi eux, Kim Sung-chil, 35 ans.
Je pense que cet accord était nécessaire. Il aurait même dû être signé plus tôt. Grâce au gouvernement du président sud-coréen Moon Jae-in, la réconciliation entre les deux Corées a commencé. J'espère que ce traité de paix nous mènera ensuite vers la réunification.
Madame Ban est venue avec ses deux jeunes enfants assister à la retransmission du sommet sur un écran géant devant la mairie.
Je me suis dit que ce serait bien pour l'éducation de mes enfants de venir ici. Cet accord me donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'émotion. Cela apaise ma peur d'une guerre et me laisse espérer la paix.
Mais tout le monde n'est pas convaincu. À quelques pas, des membres d'une association anticommuniste manifestent leur colère. Monsieur Kim, 84 ans, accuse même le président sud-coréen d'être à la solde de Pyongyang.
En participant à ce sommet, notre gouvernement se laisse berner par la Corée du Nord. Moon Jae-in se contente d'obéir à Kim Jong-un, qui veut une réunification sous l'égide du communisme.
Yann, le rapprochement des deux Corées est incontestablement un des faits majeurs de l'année, tout comme le 12 juin, la rencontre Trump-Kim Jong-un à Singapour.
Je crois que la rencontre entre le président américain et le président nord-coréen était encore plus improbable que le rapprochement avec la Corée du Sud, puisque le nouveau président sud-coréen a fait depuis longtemps foi de ce genre de rapprochement, notamment pour éviter des accidents, si je puis dire, conventionnels. Ce n'est même pas un accident nucléaire, mais une guerre conventionnelle qui pourrait éclater, par exemple, à la ligne frontière, parce que il y a un tir malencontreux, mal interprété, etc. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est très bien qu'il y ait un rapprochement entre les deux Corées, mais on sent bien que le jeu se joue surtout du côté Corée du Nord, États-Unis. Et là, c'est vrai que la rencontre était improbable, mais c'est vrai aussi qu'elle n'a pas accouché de grand-chose de très concret pour l'instant, à part une vague promesse ou un engagement à dénucléariser la péninsule coréenne, mais il n'y a pas pour autant ni de mesures, ni de vérification, ni d'inspection, rien du tout de l'arsenal nord-coréen. Alors c'est vrai que les Nord-Coréens ont suspendu leurs tirs, ont suspendu leurs essais, c'est déjà très bien, mais pour l'instant, et démantelé un site, mais pour l'instant, ils gardent l'essentiel de leurs moyens, et les États-Unis ne se sont pas engagés à grand-chose. Donc on prévoit, semble-t-il, une deuxième rencontre en début 2019. On peut espérer qu'il en sortira quelque chose de plus concret, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de palpable. Oui. C'est mieux qu'ils se parlent plutôt qu'ils ne se parlent pas, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments concrets d'engagement signé, disons, des deux parties.
À noter aussi dans ce supplément, Quel Monde en 2019, hors série, donc Alternative Économique, un papier, un article sur le Japon qui s'inquiète dans cette perspective.
Oui, parce que le Japon, c'est un papier de Guy Bourg-de-Lamotte, qui est chercheuse à l'INALCO, à l'Institut des Langues Orientales, et qui explique bien qu'effectivement, le Japon est partagé, parce qu'à la fois, il a tout intérêt ce qui est effectivement la paix, la détente de la péninsule, dans la péninsule coréenne. En même temps, il a été complètement laissé en dehors de ce rapprochement entre Trump et Kim Jong-un, rapprochement qui fait en partie le jeu de la Chine. Et de ce point de vue-là, le Japon est inquiet, parce qu'effectivement, tout ce qui favorise la Chine inquiète un peu le Japon. La Chine est un très grand pays, très armé. Le Japon a des forces de défense, il est censé pas faire la guerre, c'est dans sa constitution. Il a des forces de défense quand même, mais évidemment il n'est pas de taille face à la Chine, et tout ce qui peut favoriser la Chine l'inquiète inévitablement.
La guerre au Yémen, maintenant, je sais que vous la suivez avec attention dans la mesure du possible, Yann Mince. Le 13 juin, attaque par la coalition conduite par l'Arabie Saoudite du port d'Odeida sous contrôle des Houthis. Écoutez le témoignage que nous avons diffusé alors d'une habitante d'Odeida.
Il y a eu un important déplacement de population. Lorsque les gens ont appris que l'aéroport avait été repris par les forces gouvernementales, ils ont eu peur et ont quitté leur maison. On s'est dit, les affrontements vont gagner le centre-ville à présent, et la population a commencé à fuir vers Sanaa, la capitale. Plus tard, nous avons finalement compris qu'il n'y avait pas de combat en ville, mais c'était trop tard. Une partie de la population terrorisée avait déjà tout abandonné pour aller se réfugier à Sanaa. Odeida s'est transformée en ville fantôme. Tout est fermé, les commerces, les stations d'essence, le personnel hospitalier est parti. La situation humanitaire se détériore.
Alors parlons de la guerre au Yémen que vous essayez, je le répète, de suivre avec précision. C'est aussi, hélas, un des faits des zones du monde qui a fait la une en 2018.
Bien sûr, notamment à cause du port de Deida. Le port de Deida, c'est un port qui est au nord du Yémen. C'est le site d'approvisionnement de la partie nord du pays contrôlée par les houthistes. Donc je rappelle que les houthistes, c'est un mouvement, on va dire, dérivé du chiisme, mouvement politique dérivé du chiisme. Et en face, on a le gouvernement dit légitime, en tout cas reconnu par les Nations Unies, qui est soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, essentiellement. Et donc, cette coalition essaye de reprendre le port de Deida, ou a essayé de reprendre le port de Deida, parce que c'est par là que passe l'approvisionnement alimentaire, notamment pour le nord du pays. Et évidemment, s'ils pouvaient verrouiller le port, ils pourraient essayer d'asphyxier le nord du pays. Il y a eu un accord il y a quelques jours en Suède. On espère que ça va desserrer l'étau. Les Nations Unies sont censées surveiller le port.
On suit ça dans les journaux là, ces jours-ci. Oui.
Mais tout ça est extrêmement fragile parce qu'on sent bien que du côté de l'Arabie Saoudite et des Émirats, il reste quand même la volonté de reprendre le port.
Autre réélection, décidément, cette année, Yann Mince, celle de Tayyip Recep Erdogan, qu'on entendait tout à l'heure. C'était en Turquie le 24 juin dernier. Reportage alors à Istanbul d'Anissa El-Jabri, juste avant le scrutin.
5 mini-meetings enchaînés dans plusieurs quartiers d'Istanbul. L'objectif, labourer le terrain de cette ville qui a lancé sa carrière politique. Tayyip Erdogan en a été le maire. La ville ne lui est aujourd'hui plus favorable. Istanbul a voté non au printemps dernier au référendum attribuant des super pouvoirs au président. La dernière place où il s'exprime est à moitié vide. Peu importe, Erdogan montre les muscles pour ses derniers mots, prolonge son bras de fer verbal avec son principal adversaire, Muharrem İnce.
Monsieur İnce dit avoir réuni 2 millions de personnes à Ankara. J'ai eu les chiffres de la police. Ils étaient 75 000. Monsieur İnce prétend avoir réuni 5 millions de personnes à Istanbul. C'était 280 000. Tout ce qu'ils font, c'est mentir. Et demain, ma nation va lui donner une bonne leçon.
La foule applaudit, mais l'enthousiasme est de courte durée. Les quelques milliers de personnes qui agitaient des drapeaux blancs, bleus, oranges aux couleurs de l'AKP se dispersent à peine le discours fini. Les tireurs d'élite placés sur les toits étaient encore à leur poste.
Pierre-Edouard Deldic. Vous écoutez RFI et vous avez raison. Suite de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité intitulée Une année d'actualité, c'est la première partie, seconde partie la semaine prochaine. Et l'on va, si vous le voulez bien, Yann Mince, s'arrêter en France pour cette revue de 2018. Le 17 janvier, à noter que le gouvernement annonce l'annulation du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Reportage alors d'Alexis Bedu.
Il y a maintenant 2 heures, le gouvernement a annoncé enfin officiellement l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Ils sont heureux, les opposants à l'aéroport. Sur la ZAD, ils ont fêté toute la nuit la victoire tant espérée. Que ce fut long, répète Françoise Verchère, ancienne élue du territoire et opposante historique. Sa première pensée, ce fut pour les générations futures.
On a quand même dit là qu'on ne pouvait plus aménager, comme ils disent, le territoire en détruisant les zones agricoles, les zones naturelles, la biodiversité. Et ça, c'est un petit espoir compte tenu de l'avenir assez peu radieux que nous promet la planète dans les décennies qui viennent.
Le Premier ministre Édouard Philippe laisse jusqu'au 30 mars pour quitter la ZAD, une annonce qui n'a pas refroidi les zadistes, habitants illégaux de ce bocage depuis une dizaine d'années. Ils resteront et ils ont bien l'intention d'entamer des négociations avec l'État et les collectivités locales.
Nous, on estime déjà qu'on a toujours géré ce territoire bien mieux que ne le fait l'État. C'est un territoire qui permet d'avoir
d'avoir une expérimentation sociale, environnementale et agricole et écologique. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est pas faisable ailleurs.
Prochain rendez-vous pour eux le 10 février à l'occasion d'un grand rassemblement au bout de Victoire sur la question de l'avenir de la ZAD.
Une année en France.
Fin février, Yann a noté le début d'une longue grève à la SNCF, inédite, 3 mois à des dates prévues à l'avance, du jamais vu. Cette grève a été organisée contre la réforme du statut de l'entreprise et d'un nouveau statut des cheminots qui entreront à la SNCF dans les années qui viennent. Alors, reportage plus d'un mois après le début du conflit, alors que les cheminots avaient décidé de voter sur le projet de nouveau pacte ferroviaire, c'est son nom. Reportage signé David Bachet.
Une petite file d'attente s'est formée dans le local des contrôleurs de la gare de Lyon. Le maître des lieux, c'est Jean-Michel, contrôleur, délégué CGT et l'un des organisateurs du vote.
On avait des listes d'émargement pour que les gens puissent mettre leur nom et leur numéro de matricule. Ensuite, ils ont un bulletin à remplir. Êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire apporté par le gouvernement? Donc ils émargent et ensuite ils mettent...
Et en dessous, il y a 2 cases.
Pour ou contre. Voilà. Donc tous les jours, après, on ira faire un tour dans les bureaux pour aller voir les agents qui puissent s'exprimer aussi.
Les syndicats ont invité le directeur de la gare à voter. Il a préféré s'abstenir. Ce n'est pas le cas de ces cheminots, visiblement pressés de donner leur avis.
Bah, je suis en train de voter contre la réforme voulue par le gouvernement actuel.
Tout le monde ne peut pas faire grève, mais tout le monde n'est pas pour le projet de réforme. C'est un conflit. C'est long, je sais qu'au niveau financier, c'est dur pour certains. Donc là, au moins, ils vont pouvoir dire ce qu'ils pensent vraiment.
Par rapport au pacte ferroviaire, je suis contre. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'entreprise. Donc,
Et c'est important de faire ce vote en plus du mouvement de grève?
Absolument, pour connaître l'opinion justement de tout le monde.
Le vote dure jusqu'à lundi prochain. Il n'a aucune valeur juridique. Mais les syndicats espèrent une forte participation pour clarifier, une fois pour toutes, la position des salariés de la SNCF, qu'ils participent ou non à la grève commencée il y a 1 mois et demi.
Et l'on sait que finalement, le Parlement a voté cette réforme de la SNCF et du statut des cheminots. 2018, c'est aussi, hélas, l'année d'une nouvelle attaque terroriste, notamment à Carcassonne et Trèbes, précisément. Le gendarme Arnaud Beltrame est tué le 28 mars par un terroriste alors qu'il avait pris la place d'une otage dans un supermarché. Un hommage national lui est rendu à Paris. Reportage de Pierre Olivier.
Au passage du cercueil d'Arnaud Beltrame, recouvert de couronnes de fleurs, la foule applaudit. À quelques mètres du Panthéon, au cœur du quartier étudiant de la capitale, ce groupe de jeunes filles a tenu à assister à la cérémonie.
On est étudiante à la Sorbonne ici, donc voilà, ce matin on était en cours et on vient ici. C'est un moment dans la vie d'un citoyen, donc on est ici. C'est vraiment un acte héroïque de bravoure et on salue ça aussi aujourd'hui.
Sur l'esplanade des Invalides, malgré la pluie et le froid pénétrant, Anne Darvet est venue, capuche sur la tête, elle a apporté 2 choses avec elle.
J'ai une photo de M. Beltrame, avec en dessous, j'ai marqué « homme de courage ». Et puis j'ai des fleurs bleues, blanc, rouge, symbole de notre peuple, de la France et de notre fierté.
Ce qu'on voit dans les rues de Paris pour Arnaud Beltrame a, selon Pascal Clerc, une portée bien plus vaste qui s'adresse à l'ensemble des forces du pays.
Les soldats qui servent là au Mali actuellement, ou dans le cadre de la force contre Daesh, se sont très identifiés à lui, je crois. Donc il fédère beaucoup de combats.
Après le passage du convoi funéraire, on voit ça et là des bouquets de fleurs déposés contre les murs des immeubles parisiens.
On va commencer avec cet hommage à Arnaud Beltrame, Yann, avec un acte d'héroïsme incontestable.
Indubitablement, oui, c'est très courageux de la part
qui a marqué la France entière.
Oui, forcément, c'est très courageux de la part d'un représentant des forces de l'ordre que de se prendre la place d'une otage et de lui sauver ainsi la vie. J'entendais, en entendant le reportage, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à un autre policier qui était mort au moment des attentats de Charlie Hebdo, juste au moment où les frères Kouachi étaient sortis de Charlie Hebdo. Il avait essayé de les interpeller, il avait été tué. C'était un policier français d'origine maghrébine. Et, Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à lui, parce qu'effectivement, les membres des forces de l'ordre, dans la difficulté de leur tâche, on parlait à la fois des gendarmes, des policiers, mais aussi des militaires au Mali, essaient de faire ce qu'ils peuvent contre des djihadistes. Parfois, ils le font maladroitement, parfois ils le font au contraire très bien, et parfois ils le payent de leur vie. Je crois qu'il faut avoir une pensée pour eux. C'est un métier extrêmement difficile, extrêmement difficile. On a la critique facile contre les forces de l'ordre, toujours, enfin souvent.
On en parlera la semaine prochaine avec
la crise des gilets jaunes. Parfois on a du mal à se mettre à leur place.
La grève à la SNCF suscite un commentaire chez vous, et l'adoption de la réforme d'ailleurs après 3 mois d'un conflit sans équivalent.
Je suis pas un grand connaisseur des affaires ferroviaires. J'étais quand même assez frappé par le fait qu'il y avait, alors du coup, chez les voyageurs, assez peu de protestations en fait. On a beaucoup parlé en 95, au moment de la réforme ratée du Juppé, du fait que les gens étaient plutôt des supporters passifs qu'ils n'étaient contestataires des grévistes. Là, je ne sais pas quel était l'opinion des gens, mais globalement, est-ce que c'est de la résignation, est-ce que c'est de la passivité ?
Il faut dire que les voyageurs étaient prévenus des jours de grève.
C'est vrai, on pouvait s'organiser un peu plus, mais enfin, quand on voyage tous les jours, on n'a pas forcément le choix. Je crois que vous en savez quelque chose. Donc, effectivement, j'étais quand même assez frappé par le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvements de protestation des usagers contre ce mouvement de grève.
Alors, il faut noter aussi de cette année l'hommage à Simone Veil, qui a pris place avec son époux au Panthéon. Et il nous faut parler quelques minutes avant de partir pour l'Afrique, Yann, de l'Europe. Comment vous la voyez cette année? Il faut rappeler que dans quelques mois, il y aura des élections européennes.
Bah, elle n'est pas en très bon état, l'Union européenne.
On parlera du Brexit aussi la semaine prochaine.
C'est le moins qu'on puisse dire. L'Union européenne est dans un triste état. Elle est dans un triste état, notamment parce que chacun à leur façon, les deux des principaux pays qui la font tourner, la France et l'Allemagne, je ne dis pas que ce soit les seuls, loin de là, mais ils ont quand même une place spécifique parce qu'ils ont un poids relativement important, ne serait-ce qu'en nombre de votes au sein du Conseil européen. Et ces deux pays-là, pour des raisons différentes, sont pas en très bon état. Là, on sait que Angela Merkel est fragilisée dans son propre pays.
Qui a annoncé cette année, d'ailleurs, qu'elle partait, qu'elle quittait le pouvoir dans 2 ans.
Et qui a été remplacée à la tête de la CDU. Mais quand même, elle est affaiblie. Elle n'a pas la même force pour essayer d'entraîner son peuple vers des décisions un peu compliquées et courageuses, notamment en matière économique et monétaire. Et Emmanuel Macron, qui se voulait le rajeunisseur, si je puis dire, de l'Europe, le relanceur du projet européen, avait besoin d'Angela Merkel pour ça. Tout seul, il ne peut pas y arriver. La résistance ne vient d'ailleurs pas que de l'Allemagne. Elle vient aussi beaucoup des pays nordiques, les Pays-Bas, le Danemark, etc., dont on parle moins, mais qui sont très importants dans le fait qu'il y ait une volonté de ne pas trop bouger. Et symptomatiquement, si on prend un exemple comme la politique migratoire, le projet de Dublin, le processus de Dublin, pardon, qui prévoit que le pays par lequel entre un migrant, c'est celui-là qui doit examiner sa demande, qui veut dire qu'il y a une forte pression qui pèse sur l'Italie, sur la Grèce, sur l'Espagne. Ce processus de Dublin devrait être complètement réformé. Et l'Union européenne n'y arrive pas, et c'est dramatique.
Et dans un article de ce supplément hors série, Quel monde en 2019, Alain Dikoff s'interroge et s'inquiète de l'arrivée prochaine, presque annoncée, des nationaux populistes au Parlement européen.
Oui, parce que c'est ce que je disais en début d'émission, on a cette alliance étrange en Italie, on a évidemment ce qui se passe en Hongrie, on a des poussées populistes ou national-populistes en Allemagne, on a évidemment le Front National en France et le mouvement de Monsieur Dupont-Aignan qui arrive juste derrière. On voit bien, alors ils seront plus dans l'Union européenne bientôt, mais chez nos amis britanniques, il y a aussi des poussées. Et je l'ai vu même en Espagne récemment, avec la poussée d'un parti d'extrême droite dans les élections régionales andalouses, on avait l'impression que l'Espagne était protégée par le souvenir du franquisme. Tout ça, visiblement, est en train de passer avec le temps et de s'effacer. Donc on a effectivement cette poussée nationale populiste qui est exactement l'inverse du projet européen. Nationale populiste, c'est un projet souverainiste d'alliance de gens qui veulent faire chacun ce qu'ils veulent chez soi, donc le minimum en commun.
Le football, ça vous dit quelque chose, Yann?
J'ai entendu parler, je crois que ça se joue à 11 joueurs, à deux équipes de 11 joueurs.
Et à la fin, c'est plus l'Allemagne qui gagne, c'est la France.
Cette fois-ci, c'est la France.
Hein. Donc il y a eu la Coupe du Monde de football en Russie. Au cas où vous ne le sauriez pas, la France a même gagné la Coupe du Monde le 15 juillet, ça vous le savez quand même. Alors, juste pour l'ambiance, écoutons le commentaire sur notre antenne au coup de sifflet final et réaction dans le stade de Moscou juste après la fin du match. Chez les Français, bien sûr.
Gabriel! nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
C'était notre adresse électronique, bien sûr. Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook aussi. Un salut à quelques-uns de nos auditeurs fidèles. Bonjour par exemple à Fousseni, à Lomé, Carlos à Yaoundé, Oumar à Conakry, Galadje à Bamako. Bonjour à Samy à Kinshasa, Eric à Cotonou, Malal à Nouakchott et Jules à Lomé. À toutes et à tous, merci de votre fidélité et je vous souhaite bien sûr de joyeuses fêtes.
Année d'actualité.
Et continuons, Yann Mince, premier volet de notre revue de l'année en Afrique, avec d'abord au Libéria l'investiture de George Weah. On parlait de football à l'instant, il y a une certaine continuité et une logique. Investiture donc de George Weah le 22 janvier dernier. Écoutons un extrait de son discours.
Que ce jour soit celui où tous les Libériens vont s'unir, que ce jour soit celui où nous tous, de chaque bord politique, puissions nous asseoir à nos bureaux sans avoir à cacher notre identité politique, où nous pouvons parler de politique même au travail. C'est comme ça que la démocratie marche. Je veux que chaque Libérien se sente libre de parler de politique et d'opposition. Nous ne vous décevrons pas. Vous m'avez offert la possibilité de vous servir. Je veux vous dire, Libériens, que ce que vous venez d'accomplir, c'est votre propre réussite. Ce n'est pas pour nous, ni pour mes amis, mais bien pour vous, le peuple du Libéria. Notre objectif est que tous les Libériens travaillent ensemble et fassent avancer notre pays. La campagne électorale est finie.
Une année d'actualité suite, il s'agit de la première partie et notons aussi donc dans cette revue de l'actualité de cette année qui s'achève, la démission de Jacob Zuma en Afrique du Sud. Le président l'a annoncé à la télévision le 14 février. Écoutons un extrait des propos du président sortant et ceux de l'entrant en quelque sorte, Cyril Ramaphosa.
No life should be lost in my name.
Aucune vie ne devrait être perdue en mon nom, mais aussi l'ANC ne devrait jamais être divisée en mon nom. Alors j'en suis arrivé à la décision de démissionner de mon poste de président de la République, une décision à effet immédiat. Même si je suis en désaccord avec le leadership de mon organisation, j'ai toujours été un membre discipliné de l'ANC. Aussi longtemps que je vivrai, je continuerai à servir le peuple sud-africain, mais aussi l'ANC, l'organisation que j'ai servi toute ma vie. Mesdames et messieurs, je vous remercie vraiment de votre attention.
Nous allons intervenir de manière décisive pour stabiliser et revitaliser les entreprises publiques. Les récentes mesures prises à Eskom pour renforcer la bonne gouvernance, déraciner la corruption et restaurer des finances solides ne sont que le début d'un processus que nous comptons instaurer. Le gouvernement va prendre plus de mesures pour que toutes les entreprises publiques remplissent leurs engagements économiques ainsi que leur rôle dans le développement. C'est l'année où nous allons faire tourner le vent de la corruption. Nous devons aussi combattre cette corruption, la fraude et la collusion dans le secteur privé avec le même but et la même intensité. Nous devons nous souvenir qu'à chaque fois que quelqu'un reçoit un pot de vin, il y a quelqu'un disposé à le payer.
Alors le Libéria et l'Afrique du Sud ont été au cœur de l'actualité. Cette année, le Libéria, d'abord, vous voulez commenter ce propos de George Weah, nouveau président, depuis un an maintenant.
Ben, ce qui est intéressant, ce qu'a commencé à faire George Weah, c'est notamment sa réforme agraire, qui est une réforme difficile et qui s'attaque à un problème très compliqué qui est celui de la propriété de la terre dans des pays où il n'y a pas forcément de titre de propriété, mais où la propriété est coutumière, collective, ouais, ancestrale. Alors il veut effectivement que les communautés qui occupent une terre et qui la travaillent depuis longtemps puissent en être reconnues comme propriétaires pour éviter des appropriations, des achats par des compagnies étrangères, etc. Ce qui se fait dans beaucoup de pays, ce qui s'est fait au Libéria aussi, et ce qui se fait notamment à Madagascar ou dans d'autres. Bref, la complication, c'est comment est-ce qu'une communauté va prouver qu'une terre lui appartient. Il faut qu'elle produise des témoignages oraux, des cartes, éventuellement des contrats, mais tout ça va être très compliqué. Je pense que c'est très important pour éviter effectivement que des gens soient spoliés d'une terre qu'ils occupent et qu'ils travaillent, qu'ils les fait vivre. Et en même temps, juridiquement, ça me paraît un problème très très compliqué à surmonter, qui n'est pas du tout spécifique au Libéria. On voit ça dans un pays comme la RDC aussi très souvent.
Alors, l'Afrique du Sud, même parti au pouvoir, mais un président différent.
Oui, c'est un peu la revanche pour Cyril Ramaphosa, qui était quand même un des brillants éléments de l'ANC de la période clandestine ou en exil, qui aurait pu être le président quand Thabo Mbeki a été élu, qui a été écarté, qui a fait une brillante carrière, un peu trop brillante d'ailleurs, je crois, aux yeux d'un certain nombre de ses concitoyens sud-africains, parce qu'il est devenu extrêmement riche, il a bénéficié de la discrimination positive, ouais. Toutes ces affaires-là. Il est devenu très très très riche, et effectivement aujourd'hui il se présente comme un champion contre la corruption, et c'est très bien. La question, c'est est-ce que ce sera aussi le champion de la politique sociale dans un pays où les inégalités sont énormes, fabuleuses, et où malheureusement l'ANC ne s'y est que très modérément attaquée depuis qu'elle a remplacé le régime d'apartheid. Donc c'est très bien que Cyril Ramaphosa ait chassé du pouvoir Jacob Zuma, qui était connu pour être corrompu, qui était vraiment la queue de comète de l'ANC dans ce qu'elle a de pire. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas.
Alors, il faut noter aussi dans l'actualité africaine de la première partie de l'année, les Burundais qui ont approuvé par référendum la réforme de la Constitution qui permet au président Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034, le temps de voir en venir.
Oui, malheureusement, là, on est dans les traditions politiques africaines les plus détestables.
Deux de nos auditeurs nous ont alertés sur un événement qui les a marqués cette année. Oumar, lui, a été touché cette année, comme les années précédentes, l'année dernière en tout cas, par la mort de milliers de jeunes Africains en Méditerranée.
Bien sûr.
On en parle moins, mais c'est toujours un grand, grand dossier.
On en parle moins. Ce qu'on constate cette année, c'est qu'il y a moins d'Africains qui ont traversé, en tout cas qui ont été repérés, par la Méditerranée vers l'Italie, vers la Méditerranée centrale vers l'Italie, et que maintenant, une partie des flux sont plus importants du côté espagnol, donc sur un bras de mer qui est plus court, mais où il y aura inévitablement aussi des morts. Et on voit bien que l'Union européenne est incapable de trouver une politique à la fois humaine et durable, pour que ces migrations ne fassent pas autant de victimes. Je pense personnellement qu'il faudra à un moment ou un autre penser à rouvrir la migration de travail et pas seulement attendre que les gens aient le statut de réfugié ou essaient de l'avoir d'une façon ou d'une autre.
Jean-Paul Yannin, ce que vous êtes allé cette année en Libye et que Absolument. Vous avez pu constater de visu, si j'ose dire, la condition de ces immigrés en Libye avec Médecins Sans Frontières.
Absolument. Ouais. J'ai pu visiter un centre de détention donc où sont enfermés les gens qui ont essayé de traverser, qui ont été pris par les gardes-côtes libyens. Et puis surtout, j'ai pu voir aussi pas dans le centre évidemment, parce que là ce sont des centres clandestins, mais des victimes, de gens qui avaient été du coup capturés par des trafiquants libyens, qui leur extorquent de l'argent, qui les torturent au téléphone pour que leur famille paye, etc. Et que j'ai vu certains qui avaient réussi à sortir ou à être libérés après avoir payé probablement de ces centres. Évidemment, c'est épouvantable. Et je sais, on dit toujours, il faudrait prévenir les Africains qui veulent partir de ce qui risque de les attendre. Je ne dis pas ce qui va forcément les attendre, mais ce qui risque d'attendre. Je sais aussi malheureusement que même si on les prévient, un certain nombre essaye quand même cette traversée très complexe et souvent mortelle.
Gallo, lui, nous alerte, nous dit qu'il a été touché par la mort de l'étudiant Fallou, suivi de la colère des étudiants dans toutes les universités du Sénégal. Malaise aussi dans la jeunesse sénégalaise chez les étudiants. D'ailleurs, c'est un malaise qui traverse beaucoup de pays.
C'est bien sûr parce que
les conditions d'études difficiles.
Et ça fait très longtemps. Ça fait. J'ai écouté RFI depuis très longtemps.
Oui,
ça fait très longtemps que j'entends parler de grève dans les facultés contre les conditions d'études, contre les conditions de vie aussi, parce que pas de versement de bourse, etc. Et on voit bien qu'il y a un nombre de jeunes Africains, beaucoup de jeunes Africains, qui font des efforts démesurés pour essayer d'avoir un diplôme en dépit des conditions d'études, qui obtiennent ensuite un diplôme, qui n'ont pas de travail. Et c'est une partie de cela qu'on retrouve sur les bateaux qui essaient de traverser la Méditerranée. Pas tous, mais une partie de cela.
Reparlons pour conclure de ce hors-série que vous avez publié avec Alternative Économique, Quel Monde en 2019, qui pose la question, mais qui est aussi une synthèse de l'année écoulée, où l'Afrique a évidemment sa part, avec notamment un article de Luis Martinez sur la situation au Sahel. Le président Macron était au Tchad, c'est pour Noël. Vous faites le point, en fait. Et vous notez bien que chaque pays européen a ses priorités.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on sent bien que la France est une ancienne puissance coloniale en Afrique. Elle essaie d'y avoir encore une influence. Elle est inquiète parce qu'elle a subi des attentats, peut-être plus que d'autres pays européens, du fait qu'une partie
des foyers... récemment à Strasbourg ces dernières semaines.
Oui. Une partie des foyers du djihadisme ou des attentats puissent se trouver de l'autre côté de la Méditerranée en Afrique. Donc elle a tendance à vouloir pousser la création et le renforcement du G5 Sahel, donc cette coordination de cinq armées d'États du Sahel pour essayer de prévenir le djihadisme. Et on sent bien aussi que les autres États européens, notamment l'Allemagne, mais pas seulement, sont beaucoup moins intéressés par ce sujet. Ils sont plus inquiets de la migration et des conséquences migratoires qu'ils ne sont inquiets de la menace djihadiste dans le Sahel.
Et vous êtes intéressé dans toujours dans ce numéro, Yann Mince, au Nigeria, avec un article qui s'intitule « Président en sursis ».
Oui, parce que on va avoir des élections présidentielles au Nigeria l'an prochain, en avril, je crois, de tête. Et effectivement, Mohamed Bouhari, jusque-là, avait l'air d'être plutôt en bonne position. C'est pas sûr qu'il soit en si bonne position, parce que autant la violence a un peu baissé, ou en tout cas s'est réduite un peu, provisoirement, en tout cas quelques mois, du côté de Boko Haram, autant elle est repartie dans d'autres endroits, et notamment au centre du pays, avec des tensions entre des nomades, des tensions classiques, entre des nomades et des paysans pour des questions de ressources, de terres, etc. Et c'est un endroit qui fait, on en parle relativement peu, mais où il y a aujourd'hui plus de morts que du fait de Boko Haram dans le nord du Nigeria, donc c'est une situation très inquiétante.
Donc élection présidentielle en février 2019 à suivre, nous en parlerons certainement dans un des numéros d'une semaine d'actualité à ce moment-là. Merci Yann Mince, on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour la suite de notre revue des faits saillants de l'année 2018 qui s'achève. Je recommande donc ce hors-série, Quel monde en 2019, toujours aussi passionnant, avec graphiques, cartes et analyses écrites, aussi en partenariat avec Sciences. Une année d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je remercie toute l'équipe de la Sonothèque de la radio, Laurence Sarniguet, Eugénie Ducré, Françoise Delignon, Vanadis Feuille et Charles Mamère. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Vous aurez droit à deux émissions, Bande de Vénards. À 12h10 à la place d'International, nous aurons rendez-vous avec Bertrand Badi, professeur de relations internationales, avec lequel nous parlerons des pays du Sud et de leur importance aujourd'hui dans le monde. Et rendez-vous aussi à notre heure habituelle avec une nouvelle diffusion de notre émission sur les passions avec le philosophe Robert Maggiori et la princesse Charlotte Casiraghi. À ne pas manquer, 17h10, heure de Paris demain. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.